La maison de la sorcière de Howard Phillips Lovecraft. Était-ce les rêves qui avaient amené la fièvre ou la fièvre les rêves? Walter Gilman n'en savait rien. Derrière tout cela était tapie l'horreur sourde, prudente de la vieille ville et de l'abominable mansarde moisie, à l'abri d'un pignon où il étudiait, écrivait et se colletait avec les chiffres et les formules quand il ne se retournait pas dans son maigre lit de fer. Son oreille devenait d'une sensibilité surnaturelle, intolérable. Aussi avait-il depuis longtemps arrêté sur la cheminée la pauvre pendule dont le tic-tac finissait par lui sembler un fracas d'artillerie. La nuit, les mouvements indistincts de la ville obscure au dehors, les sinistres galopades de rats dans les cloisons vermoulues et le craquement des poutres invisibles de la maison séculaire lui donnaient à eux seuls l'impression d'un pandémonium de stridence. Les ténèbres grouillaient toujours de sons inexplicables, et pourtant il tremblait parfois que ces bruits-là ne cessent pour faire place à certains autres, plus assourdis qu'ils soupçonnaient de rôder derrière eux. Ils vivaient dans l'immuable cité d'Arkham, hantée de légendes, où les toits en croupe tanguent et ploient les uns contre les autres, au-dessus des greniers où se cachaient les sorcières pour échapper aux soldats du roi, dans le sombre passé de la province. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre au pignon où il logeait. Car c'était cette maison, cette chambre, qui avait abrité aussi la vieille Kezia Mason, dont nul n'a jamais pu expliquer l'évasion in extremis de la prison de Salem. C'était en 1692. Le geôlier devenu fou bredouilla qu'un petit animal à fourrure, au croc blanc, s'était échappé de la cellule de Kezia, et Cotton Mather lui-même fut incapable d'interpréter les courbes et les angles barbouillés sur la pierre grise des murs avec un liquide rouge visqueux. Peut-être Gilman aurait-il dû moins s'acharner dans ses études. Le calcul non euclidien et la physique quantique suffisent à fatiguer n'importe quel cerveau. Et quand on y ajoute le folklore, en essayant de déceler un étrange arrière-plan de réalité à plusieurs dimensions, sous les allusions morbides des légendes gothiques et les récits extravagants chuchotés au coin de la cheminée, peut-on s'attendre à éviter le surmenage intellectuel? Gilman venait de Haverhill, mais ce fut seulement à Arkham, après son inscription à l'université, qu'il commença à associer ses mathématiques aux légendes fantastiques de la magie ancienne. Quelque chose dans l'air de la vénérable ville travailla obscurément son imagination. Les professeurs de Miskatonic lui avaient vivement conseillé de se détendre, allégeant à dessein son programme sur certains points. Par ailleurs, il l'avait empêché de consulter les vieux livres suspects traitant de secrets interdits qu'on gardait sous clé dans une cave à la bibliothèque de l'université. Autant de précautions qui vinrent trop tard, de sorte que Gilman eut de terribles aperçus du redoutable Necronomicon d'Abdul Al-Azred, du fragmentaire livre d'Ebon et du livre interdit de Von Juntz, cultes innommables, à mettre en corrélation avec ses formules abstraites sur les propriétés de l'espace et les relations entre les dimensions connues et inconnues. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. En fait, c'était pour cela qu'il l'avait prise. On trouvait dans les archives du comté d'Essex beaucoup de documents sur le procès de Kezia Mason, et ce qu'elle avait avoué sous la contrainte devant le tribunal avait fasciné Gilman plus que de raison. Elle parlait au juge Hassorn de lignes et de courbes qu'on pouvait tracer pour indiquer les voies qui menaient à travers les murs à des espaces différents au-delà du nôtre. Et elle laissait entendre qu'on utilisait fréquemment ces lignes et ces courbes lors de certaines assemblées nocturnes dans la sombre vallée de la Pierre Blanche de l'autre côté de Meadow Hill et sur l'île déserte de la rivière. Elle avait aussi parlé de l'homme noir, du serment qu'elle avait prêté et de son nouveau nom secret, Nahab. Puis, ayant tracé ses formules sur les murs de sa cellule, elle avait disparu. Gilman, qui croyait d'étranges choses au sujet de Kezia, avait éprouvé une émotion bizarre en apprenant que sa demeure était encore debout après plus de 235 ans. Quand il sut quelle rumeur courait en secret à Arkham sur la présence persistante de Kezia dans la vieille maison et les rues étroites, les marques irrégulières de dents humaines laissées sur certains dormeurs dans telle ou telle maison, les cris d'enfants entendus vers la veille du 1er mai et de la Toussaint, la puanteur souvent observée dans le grenier de la vieille maison après ces périodes redoutables, Enfin, le petit animal velu aux dents aiguës qui hantait le bâtiment délabré et la ville, venant flairer curieusement les gens aux heures noires d'avant l'aube, alors il résolut de s'y installer à tout prix. Il fut aisé d'y obtenir une chambre, car la maison, ayant mauvaise réputation, était difficile à louer et vouée depuis longtemps au petit loyer. Gilman n'aurait su dire ce qu'il espérait y trouver. Il savait seulement qu'il voulait habiter la demeure où on ne sait quelles circonstances avaient donné, plus ou moins soudainement, à une vieille femme quelconque du XVIIe siècle, l'intuition de perspectives mathématiques qui dépassaient peut-être les recherches modernes les plus poussées de Planck, de Heisenberg, d'Einstein et de Sitter. Il examina la charpente et le plâtre des murs pour y chercher des traces de dessins secrets à tous les endroits accessibles où le papier s'était décollé. Et en une semaine, il parvint à se faire donner la mansarde est où l'on prétendait que Kezia préparait ses sortilèges. Elle était libre dès son arrivée, car personne ne tenait jamais à y rester longtemps. Mais le propriétaire polonais avait renoncé à la louer. Pourtant, il n'arriva rien de particulier à Gilman jusqu'à l'époque de la fièvre. Aucune ombre de Kezia ne traversa les mornes couloirs et les logements. Aucun petit animal velu ne se glissa pour le flairer dans son air lugubre, et pas le moindre signe des incantations de la sorcière ne vint récompenser sa recherche incessante. Il allait parfois se promener dans l'obscur labyrinthe des ruelles non pavées aux relents de moisissures, où de mystérieuses maisons brunes, sans âge, penchées et chancelantes, le lorgnaient ironiquement à travers d'étroites fenêtres à petits carreaux. Il savait que d'étranges choses s'étaient produites là autrefois, et une vague impression, derrière les apparences, suggérait que tout de ce monstrueux passé, au moins dans les venelles les plus étroites, les plus sombres et tortueuses, n'était pas complètement mort. Il alla aussi une ou deux fois en barque jusqu'à l'île malfamée de la rivière, et fit un croquis des angles singuliers formés par les alignements moussus de pierres levées grises, dont l'origine était si mystérieuse et d'une si lointaine antiquité. La chambre de Gilman était de bonne taille, mais d'une forme bizarrement irrégulière. Le mur nord s'inclinait sensiblement vers l'intérieur de la pièce, d'un bout à l'autre, tandis que le plafond bas descendait en pente douce dans la même direction. À part un trou de rat évident et les traces d'autres trous qu'on avait bouchés, il n'y avait pas d'accès, ni vestige de quelque moyen de passage, menant à l'espace qui devait exister entre le mur oblique et la muraille extérieure verticale, sur la face nord de la maison, bien que celle-ci, vue du dehors, révélât l'emplacement d'une fenêtre condamnée depuis très longtemps. La soupente au-dessus du plafond, qui devait avoir un plancher oblique, était également inaccessible. Lorsque Gilman grimpa sur une échelle, jusqu'à la partie horizontale du grenier, couverte de toiles d'araignée, au-dessus du reste de la mansarde, il découvrit les marques d'une ancienne ouverture, hermétiquement close de lourdes planches, fixées par les solides chevilles de bois familières aux charpentiers de l'époque coloniale. Mais aucun effort de persuasion ne put décider l'impassible propriétaire à le laisser explorer aucun de ces deux espaces clos. À mesure que le temps passait, sa fascination grandit pour le mur et le plafond anormaux de sa chambre, car il commença à lire, dans leurs angles étranges, une signification mathématique qui semblait offrir de vagues indices concernant leur but. La vieille Kezia, se dit-il, devait avoir d'excellentes raisons d'habiter une pièce aux angles singuliers. N'était-ce pas grâce à certains angles qu'elle prétendait franchir les limites du monde spatial que nous connaissons? Son intérêt se détourna peu à peu des vides inexplorés derrière les surfaces obliques, puisqu'il apparaissait maintenant que le propos de ces surfaces s'adressait au côté où il se trouvait déjà. La menace de fièvre cérébrale et les rêves s'annoncèrent au début de février. Depuis quelque temps, les angles bizarres de la chambre de Gilman semblaient avoir sur lui un effet étrange, presque hypnotique. Et tandis qu'avançait le triste hiver, il se surprit à fixer de plus en plus intensément le coin où le plafond incliné vers le bas rejoignait le mur incliné vers l'intérieur. À peu près à la même époque, son incapacité à se concentrer sur ses études universitaires l'inquiéta énormément et son appréhension avant l'examen de fin de semestre devint extrême. Mais la sensibilité excessive de son ouïe n'était pas moins gênante. La vie était devenue une perpétuelle et intolérable cacophonie à laquelle s'ajoutait constamment la terrifiante impression que d'autres sons, peut-être venus de régions au-delà de la vie, attendaient, vibrant juste au seuil de l'audible. Si outrés que puissent être les bruits réels, ceux des rats dans les vieilles cloisons étaient les pires. Leurs grattements semblaient parfois non seulement furtifs, mais voulus. Quand ils venaient du mur oblique nord, il s'y mêlait une sorte de cliquetis sec, et lorsqu'il semblait sortir de la soupente fermée depuis un siècle, au-dessus du plafond oblique, Gilman se raidissait comme s'il redoutait quelque horreur qui n'attendait que le moment de s'abattre pour l'engloutir complètement. Les rêves outrepassaient toutes les bornes de la raison, et Gilman y devinait la résultante de ses études conjointes en mathématiques et en folklore. Il avait trop médité sur les régions imprécises que ses formules lui faisaient pressentir au-delà des trois dimensions connues, et sur la possibilité que la vieille Kezia, guidée par on ne sait quelle influence, en ait réellement découvert la clé. Les archives jaunies du comté rapportant son témoignage, et celui de ses accusateurs, suggéraient diaboliquement des notions étrangères à l'expérience humaine, et les descriptions du redoutable petit être velu, qui lui servait de démon familier, étaient terriblement réalistes malgré leurs détails incroyables. Cette créature, pas plus grosse qu'un rat de bonne taille, et que les gens de la ville appelaient curieusement « Brown Jenkins », devait être le fruit d'un cas remarquable d'hallucination collective, car en 1692, 11 personnes affirmaient l'avoir aperçu. Il courait aussi des rumeurs récentes qui déroutaient et troublaient par leur concordance. Les témoins parlaient d'un animal à longs poils, au corps de rat, mais dont la tête barbue aux dents pointues exprimait une malveillance humaine, tandis que ses pattes ressemblaient à de minuscules mains d'homme. Il servait de messager entre Kezia et le diable, se nourrissant du sang de la sorcière, qu'il suçait comme un vampire. Sa voix était une sorte de gloussement répugnant, et il parlait toutes les langues. Parmi les étranges monstruosités que Gilman voyait en rêve, rien ne lui inspirait plus de terreur et d'écœurement que cet avorton hybride et impie, dont l'image traversait ses visions sous une forme mille fois plus détestable que tout ce que lui avaient fait imaginer à l'état de veille les vieux témoignages et les modernes on-dit. Les rêves de Gilman étaient en général des plongées à travers des abîmes infinis de crépuscules indiciblement colorés et de sons au déconcertant désordre. Des abîmes dont les propriétés physiques et gravitationnelles, comme les relations avec sa propre essence, échappaient à toute tentative d'explication. Il ne marchait, ni ne grimpait, ne volait, ni ne nageait, sans non plus ramper, ni se tortiller. Mais il faisait toujours l'expérience d'un mode de déplacement mi-volontaire et mi-involontaire. Il pouvait difficilement juger de sa propre position, car la vue de ses bras, de ses jambes et de son torse semblait toujours empêchée par une étrange perturbation de la perspective. Mais il sentait que son organisme et ses facultés subissaient d'une manière ou d'une autre une prodigieuse mutation et une propulsion oblique, non sans certains rapports grotesques avec ses proportions et ses moyens normaux. Les abîmes, loin d'être vides, étaient peuplés de masses de substances aux nuances inconnues, présentant des angles indescriptibles dont les unes semblaient organiques et d'autres inorganiques. Quelques-uns de ces objets organiques pouvaient éveiller de vagues souvenirs au fond de sa mémoire, bien qu'il ne parvînt pas à former une idée consciente de ce que, par dérision, il lui rappelait ou lui suggérait. Dans les rêves plus récents, il commença à distinguer des catégories selon lesquelles les objets organiques semblaient se répartir et qui lui impliquaient, pour chaque cas, des espèces radicalement différentes de comportement et de motivation. L'une de ces catégories lui parut réunir des objets un peu moins illogiques et aberrants que les autres dans leur mouvement. Tous ces objets, organiques ou non, échappaient totalement à la description ou même à la compréhension. Gilman comparait quelquefois les masses inorganiques à des prismes, des labyrinthes, des grappes de cubes et de plans, des constructions cyclopéennes. Et les êtres organiques le frappaient diversement comme des groupes de bulles, de pieuvres, de mille pattes, d'idoles hindoues vivantes et d'arabesques compliquées, saisies d'une sorte d'animation ophidienne. Tout ce qu'il voyait était indescriptiblement menaçant et horrible. Et chaque fois qu'une des entités organiques semblait, par ses mouvements, déceler sa présence, il éprouvait une peur atroce, profonde, qui généralement le réveillait en sursaut. Il n'en savait pas plus sur le déplacement des entités organiques que sur le principe de ses propres mouvements. Avec le temps, il observa un nouveau mystère. Certaines entités avaient tendance à apparaître brusquement dans le vide ou à disparaître totalement avec la même soudaineté. Le tumulte de cris, de grondements qui envahissaient les abîmes défiait toute analyse quant à la hauteur, au timbre ou au rythme. Mais il semblait synchrone avec de vagues changements dans l'apparence de tous les objets indéterminés, organiques ou inorganiques. Guillemin redoutait sans cesse qu'il n'atteigne quelque intolérable degré d'intensité au cours de l'une ou l'autre de ces mystérieuses fluctuations qui revenaient toujours, impitoyablement. Mais ce n'était pas dans ces tourbillons de totale étrangeté qu'il voyait Brown Jenkins. L'épouvantable petit monstre était réservé à des rêves plus clairs et plus saisissants, qui l'attaquaient au moment même où il allait sombrer au plus profond du sommeil. Couché dans le noir, il luttait pour rester éveillé quand une faible lueur dansante faisait miroiter la chambre séculaire, soulignant d'une brume violette la convergence des plans obliques qui avaient capté insidieusement son esprit. L'horreur surgissait du trou de rat dans le coin de la pièce et trottinait vers lui sur le plancher aux larges lames affaissées, son petit visage humain barbu exprimant une hideuse avidité. Mais heureusement, ce rêve se dissipait toujours avant que la bête ne fût à portée de fourrer son museau contre lui. Elle avait des canines atrocement longues et acérées. Guillemin s'efforçait chaque jour de boucher le trou de rat, mais chaque nuit, les occupants réels des cloisons rongeaient l'obstacle, quel qu'il fût. Il avait une fois prié le propriétaire d'y clouer une plaque de fer blanc, mais la nuit suivante, les rats creusaient un nouveau trou, et ce faisant, ils poussèrent ou traînèrent dans la chambre un drôle de petit os. Guillemin ne parla pas de sa fièvre au médecin, sachant qu'il ne pourrait pas passer ses examens si on l'envoyait à l'infirmerie, alors qu'il avait besoin de tout son temps pour réviser. En fait, il échoua en calcul différentiel et en études supérieures de psychologie générale, mais il garda l'espoir de rattraper le temps perdu avant la fin du trimestre. Ce fut en mars que survint un élément nouveau dans les rêves plus clairs du premier sommeil, et la figure cauchemardesque de Brown Jenkins s'accompagna d'une forme floue qui en vint peu à peu à évoquer une vieille femme voûtée. Cette innovation l'inquiétant plus qu'il n'aurait su le dire, il finit par conclure que c'était l'image d'une vieille mégère qu'il avait réellement rencontrée deux fois dans l'obscur labyrinthe des ruelles proches des quais abandonnés. À chacune de ces apparitions, le regard fixe, malveillant, sardonique et apparemment sans but de la sorcière l'avait fait frissonner, surtout la première fois lorsqu'un énorme rat traversant comme une flèche l'entrée ombreuse d'une venelle toute proche le fit sans raison songer à Brown Jenkins. À présent, se dit-il, ses peurs nerveuses se reflétaient dans ses rêves désordonnés. Que la vieille maison eût une influence néfaste, il ne pouvait le nier. Mais les traces de sa curiosité morbide du début l'y retenaient. Il se disait que seule la fièvre était responsable de ses chimères nocturnes et que la fin de l'accès le libérerait des monstrueuses visions. Elles étaient, néanmoins, abominablement frappantes, convaincantes, et il lui restait au réveil le sentiment d'avoir éprouvé beaucoup plus de choses qu'il ne se le rappelait. Il avait l'atroce certitude d'avoir parlé dans ses rêves oubliés avec Brown Jenkins et la vieille femme, qui le pressait de venir avec eux pour rencontrer un troisième personnage doué d'une puissance supérieure. Vers la fin de mars, il se remit aux mathématiques, mais les autres matières l'ennuyaient de plus en plus. Il s'était découvert un don intuitif pour résoudre les équations riemanniennes et stupéfiait le professeur Upham par sa compréhension des problèmes de la quatrième dimension et d'autres qui laissaient sans voix tout le reste de la classe. Un après-midi, il y eut une discussion sur l'existence possible de courbures insolites de l'espace et de points théoriques d'approche ou même de contact entre notre partie du cosmos et diverses autres régions, aussi éloignées que les étoiles les plus lointaines ou les abîmes transgalactiques eux-mêmes. Ou même aussi fabuleusement distantes que les unités cosmiques expérimentalement concevables au-delà du continuum espace-temps einsteinien. Guillemin traita ce thème avec une aisance qui remplit d'admiration toute l'assistance, même si certaines de ses hypothèses proposées à titre d'exemple ne firent qu'encourager les perpétuels bavardages sur la bizarrerie de sa nervosité et de sa solitude. Ce qui fit hocher la tête aux étudiants fut le ton sérieux de sa théorie selon laquelle un homme, doué de connaissances mathématiques dépassant de la vie générale toutes les probabilités d'acquisition humaine, pourrait passer volontairement de la Terre à tout autre corps céleste situé à l'un d'une infinité de points précis du modèle cosmique. Un tel passage, dit-il, ne demanderait que deux étapes. D'abord la sortie de la sphère à trois dimensions que nous connaissons, et ensuite le retour à la sphère à trois dimensions en un autre point, peut-être à une distance infinie. Que cela pût être réalisé sans perdre la vie était concevable dans beaucoup de cas. Tout être de n'importe quelle région de l'espace à trois dimensions pouvait probablement survivre dans la quatrième dimension. Et sa survie lors de la seconde étape dépendrait de la région étrangère de l'espace à trois dimensions qu'il choisirait pour sa rentrée. Les habitants de certaines planètes pouvaient vivre sur certaines autres, même si celles-ci appartenaient à des galaxies différentes ou à des phases dimensionnellement similaires d'autres continuums espace-temps. Bien que naturellement, il doive exister des quantités considérables de corps ou de zones d'espace inhabitables les uns pour les autres, même s'ils sont mathématiquement juxtaposés. Il était possible aussi que les habitants d'un monde de dimension donnée puissent survivre à l'entrée dans beaucoup de mondes inconnus et incompréhensibles à dimensions supplémentaires ou indéfiniment multipliées, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du continuum espace-temps donné, et que la réciproque soit également vraie. C'était là un sujet de conjecture, bien qu'on puisse être à peu près certain que le type de mutation impliquée par le passage d'un système dimensionnel donné au système suivant plus élevé n'entraînerait pas la destruction de l'intégrité biologique telle que nous l'entendons. Gilman ne trouva pas d'argument très clair pour étayer cette dernière hypothèse, mais son imprécision sur ce point fut largement compensée par sa clarté sur d'autres sujets complexes. Le professeur Upham goûta particulièrement sa démonstration de la parenté des mathématiques supérieures avec certains moments du savoir magique transmis à travers les âges depuis une indicible antiquité, humaine ou préhumaine, où la connaissance du cosmos et de ses lois était plus vaste que la nôtre. Vers le 1er avril, Gilman s'inquiéta sérieusement car son état fébrile persistait. Il fut aussi contrarié d'apprendre par d'autres locataires qu'il était somnambule. Il quittait souvent son lit, disait-on, et l'occupant de la chambre en dessous entendait craquer son plancher à certaines heures de la nuit. Cet homme prétendait qu'on marchait également avec des chaussures. Mais il se trompait sûrement, puisque Gilman retrouvait toujours le matin ses souliers ainsi que tous ses effets exactement à leur place. On pouvait s'attendre à toutes sortes d'illusions auditives dans cette vieille maison malsaine. Gilman lui-même n'était-il pas certain de percevoir, même en plein jour, d'autres bruits que les grattements de rats venant des vides obscurs de l'autre côté du mur oblique et au-dessus du plafond en pente? Son oreille, d'une sensibilité maladive, commençait à surprendre des pas étouffés en haut dans la soupente condamnée depuis toujours, et l'impression en était parfois d'un réalisme angoissant. Cependant, il se savait devenu somnambule, car à deux reprises, on avait trouvé sa chambre vide la nuit, bien que ses vêtements n'aient pas bougé. Il avait là-dessus le témoignage de Frank Elwood, le seul de ses camarades que la pauvreté obligeait à loger dans cette maison sordide et malfamée. Elwood, ayant travaillé bien après minuit, était monté lui demander son aide pour une équation différentielle. Après avoir frappé sans obtenir de réponse, il s'était permis d'ouvrir la porte non verrouillée, pensant dans son cruel embarras que son hôte ne lui en voudrait pas d'avoir été doucement réveillé. Mais Gilman n'était pas là, et, informé de ce qui s'était passé, il se demanda où il avait bien pu aller, pieds nus, en pyjama. Il résolut d'approfondir la question si le phénomène se reproduisait, et songea à répandre de la farine sur le plancher du corridor pour voir où le conduirait la trace de ses pas. La porte était la seule issue envisageable, car l'étroite fenêtre ne menait nulle part où l'on put poser le pied. À mesure qu'avril passait, son ouïe aiguisée par la fièvre fut importunée par les prières gémissantes d'un monteur de métier à tisser, un superstitieux qui demeurait au rez-de-chaussée et qu'on appelait Joe Mazurevitch. Il racontait de longues histoires incohérentes à propos du fantôme de la vieille Kezia et de la bête fureteuse aux longs poils et aux crocs aigus qui le hantait si atrocement parfois que seul son crucifix d'argent, donné tout exprès par le père Ivaniki de l'église Saint-Stanislas, lui procurait quelque répit. Il priait à présent parce que le sabbat des sorcières approchait. La veille du 1er mai, c'était la nuit de Valpurgis, où les plus noirs suppôts de l'enfer parcouraient la terre et où tous les esclaves de Satan s'assemblaient pour des rites et des forfaits innommables. C'était toujours un moment terrible à Arkham, même si les gens de Miskatonic Avenue et de High ou Saltonstall Street prétendaient n'en rien savoir. Il se ferait des horreurs et un ou deux enfants disparaîtraient probablement. Joe savait tout cela, car dans son pays natal, sa grand-mère tenait ses histoires de sa propre aïeule. C'était le temps de prier et d'égrener son chapelet. Depuis 3 mois, Kezia et Bron Jenkins n'approchaient pas de la chambre de Joe, ni de celle de Paul Choinski, ni d'aucune autre. et cela ne présageait rien de bon lorsqu'il se tenait ainsi à distance. Il devait préparer un mauvais coup. Le 16 avril, Gilman passa chez un médecin et fut surpris d'apprendre que sa température n'était pas si élevée qu'il l'avait craint. Le docteur le soumit à un interrogatoire serré et lui conseilla de voir un spécialiste des maladies nerveuses. Réflexion faite, il se félicita de n'avoir pas consulté le médecin de l'université, plus curieux encore. Le vieux Waldron, qui avait déjà fait réduire ses activités, l'aurait mis au repos. Et c'était impossible, alors qu'il sentait si proche les extraordinaires solutions de ses équations. Il était certainement tout près de la frontière entre l'univers connu et la quatrième dimension, et qui sait jusqu'où il irait. Mais au moment même où ses pensées lui venaient à l'esprit, il se demanda d'où il tenait son étrange confiance. Ce sentiment redoutable d'imminence n'était-il dû qu'aux formules dont il couvrait des pages jour après jour? Les pas imaginaires, doux, furtifs, là-haut, dans la soupente condamnée, minaient sa volonté. Il avait aussi maintenant l'impression grandissante qu'on cherchait sans cesse à le persuader de faire une chose abominable à laquelle il ne pouvait se résoudre. Et que signifiait ce somnambulisme? Où allait-il parfois la nuit? Qu'étaient ces sons faiblement suggérés qui, de temps à autre, semblaient filtrer au travers du désordre affolant des bruits identifiables, même en plein jour, en pleine conscience? Leur rythme ne correspondait à rien de connu sur Terre, sinon peut-être à la cadence d'une ou deux psalmodies de sabbat dont on ne doit pas parler, et il craignait quelquefois que ce ne fût un écho du tumulte de grondements et de cris qui emplissaient les abîmes totalement étrangers du rêve. Cependant, les rêves, eux, devenaient atroces. Dans la phase préliminaire plus claire, la vieille sorcière était d'une netteté infernale, et Gilman savait que c'était bien elle qui l'avait effrayée dans le quartier des taudis. On ne pouvait se méprendre sur son dos voûté, son long nez, son menton ridé et ses informes vêtements bruns étaient bien ceux qu'il se rappelait. Son visage exprimait hideusement la jubilation mauvaise, et quand il s'éveilla, il entendait encore une voix croissante qui persuadait et menaçait. Il devait, disait-elle, rencontrer l'homme noir et les accompagner tous devant le trône d'Azathoth, au cœur de l'ultime chaos. Il devait signer de son sang le livre d'Azathoth et adopter un nouveau nom secret à présent que ses recherches indépendantes étaient allées si loin. Ce qui l'empêchait de les suivre, elle, Bron Jenkin et les autres, devant le trône du chaos, où les flûtes au son maigre jouent avec indifférence, c'était qu'ayant vu le nom Azathoth dans le Necronomicon, il le tenait pour un mal primordial, dont l'horreur défiait toute description. La vieille surgissait toujours du vide près de l'angle où l'oblique vers le bas rejoignait l'oblique vers l'intérieur. Elle semblait se cristalliser en un point plus proche du plafond que du plancher, et elle était chaque nuit un peu plus proche et plus distincte avant que le rêve ne change. Bron Jenkin lui aussi se rapprochait à la fin, et ses crocs blancs jaunâtres luisaient terriblement dans cette mystérieuse phosphorescence violette. Son détestable gloussement suraigu se gravait de plus en plus dans la tête de Gilman, qui se rappelait au matin comment il avait prononcé les mots Azathoth et Nyarlathotep. Dans les rêves plus profonds, tout se précisait également, et Gilman sentait que les abîmes crépusculaires autour de lui étaient ceux de la quatrième dimension. Ces entités organiques, dont les mouvements paraissaient moins manifestement aberrants et gratuits, devaient être des projections de formes vivantes de notre planète, y compris d'êtres humains. Quant aux autres, ils n'osaient pas même s'interroger sur ce qu'elles pouvaient être dans la ou les sphères dimensionnelles auxquelles elles appartenaient. Deux des êtres mouvants les moins déroutants, un assez gros agrégat de bulles iridescentes plus ou moins sphériques et un polyèdre beaucoup plus petit aux couleurs inconnues et dont les angles changeaient à vue d'œil, semblaient remarquer sa présence, le suivant ou flottant devant lui, tandis qu'il évoluait parmi les prismes gigantesques, les labyrinthes, les grappes de cubes et de plans, les constructions cyclopéennes. Et tout le temps, le tumulte de cris et de grondements ne faisait que croître, comme s'il eût approché d'un monstrueux paroxysme d'une intolérable intensité. Dans la nuit du 19 au 20 avril, survint un fait nouveau. Gilman se déplaçait un peu, malgré lui, dans les abîmes crépusculaires, précédé de l'agrégat de bulles et du petit polyèdre flottant, quand il fut frappé par des angles étrangement réguliers formés par les arêtes d'une gigantesque grappe de prismes à côté de lui. En une seconde, il se retrouva hors de l'abîme, tremblant sur le flanc d'une colline rocailleuse baignée d'une intense lumière verte. Il était pieds nus, en vêtements de nuit. Et quand il essaya de marcher, il s'aperçut qu'il pouvait à peine lever un pied. Un tourbillon de vapeur dérobait tout à sa vue au-delà du sol en pente, et il se contracta à l'idée des sons qui pourraient s'élever de cette vapeur. Puis il vit deux silhouettes ramper laborieusement vers lui, la vieille femme et le petit être velu. La mégère fit un effort pour se mettre à genoux et croisa les bras d'une façon singulière, tandis que Brown Jenkins désignait une certaine direction, d'une patte hideusement anthropoïde, qu'il élevait avec une visible difficulté. Poussé par une impulsion dont il ignorait l'origine, Gilman se traîna dans le sens indiqué par l'angle des bras de la vieille et de la patte du petit monstre, et il n'avait pas fait trois pas qu'il se retrouvait dans les abîmes nébuleux. Les formes géométriques grouillaient autour de lui, et il se mit à tomber vertigineusement, interminablement. Pour finir, il se réveilla sur son lit, dans la mansarde aux angles déments de la vieille maison mystérieuse.